Chapitre 4, Monsieur de Crochamps, peintre d'âme. Il faut le savoir, Monsieur de Crochamps, dans sa jeunesse, avait donné à son maître Bonnat les plus belles espérances. Mais vers sa 25e année, les nouvelles tendances de la peinture l'avaient entraîné dans une voie hasardeuse. Assoiffé d'originalité, épris des mystérieuses splendeurs de la lumière et du coloris, le jeune homme était devenu en quelques mois ce que nos pères, les insensés, nommaient alors un décadent. Adieu les portraits raisonnables et lucratifs. Adieu la vie presque bourgeoise, l'atelier sévère et bien achalandé. Adieu rêve mesquin, qu'il disait, de récompenses honorifiques, de commandes officielles, voire d'instituts. Et ses parents le croyaient fou, il se désolait. Ils avaient tort, en ce sens que leur fortune étant ronde, leur fils pouvait vivre de ses rentes en attendant de produire des chefs-d'œuvre révolutionnaires, sait-on jamais. Ils avaient raison dans cet autre sens que, dès leur trépas, M. de Crochamps s'empressa de défenestrer l'argent avec une si fougueuse activité qu'il resta bientôt seul et quasi nu, n'ayant plus que son art et un ami. Son art à monnayer ne valait pas grand-chose. À cette époque-là, les amateurs de tableaux n'osaient se risquer, non plus que les marchands. Mais l'ami, lui, avait de la valeur. C'était le notaire Édouard Orlac, riche homme et cœur bizarre, entiché de ce peintre, son chevalier, pour sa joyeuse humeur, son désintéressement, ses idées hardies, et surtout pour ce penchant qui les inclinait tous deux à l'étude de l'au-delà. Peu de temps après la déconfiture de M. de Crochamps, maître Édouard Orlac perdit sa jeune femme. Il aimait au point de l'avoir épousée sans fortune. C'est alors qu'il fit tourner sa première table dans le dessein d'entrer en communication avec la chère défunte. C'est alors également qu'il pria M. de Crochamps de venir habiter le deuxième étage de son hôtel, où il fit aménager un atelier de bonne proportion. C'est alors enfin que le peintre dit décadent, ou pour mieux dire impressionniste, se spécialisa dans la peinture psychique. Il se mit à faire des portraits d'âmes, des paysages mentaux. Encore une fois, c'est une question de savoir quelle fut en ceci la part de la sincérité. D'un côté, il est certain que l'exercice de cet art bien spécial assurait à l'artiste un gîte et un couvert que ses qualités de cœur et d'esprit n'eussent peut-être pas suffi à lui conserver, mais d'un autre côté, M. de Crochamps montra toujours une telle conviction, il prenait un air si benoît pour disserter de psychisme qu'on ne pouvait croire en sa présence à son incrédulité. L'atelier de la rue d'Assas, comme on peut le supposer après ce qui précède, renfermait les tableaux les plus extraordinaires, aussi bizarres ma foi que des cubisteries et des futuristeries, sinon même davantage. C'étaient des toiles couvertes de figures géométriques ou resplendissantes ou brumeuses, des arcs, des paraboles, des ellipses, des ovales, des spires et jusqu'à des sinusoïdes, des puzzles où s'emboîtaient toutes les courbes et toutes les brisures, des carrelages polychromes, des vitraux multicolores. Les lignes faisceaux de traits aux nuances diverses paraissaient lumineuses et de grands rayons directs, irisés, issus comme de prismes où se fût décomposée la lumière d'autres soleils, traversaient en sautoir ces extravagantes mosaïques parmi lesquels on découvrait des portions d'objets, des fragments d'animaux, des bouts de femmes ou d'hommes, la moitié d'une horloge, le quart d'une étoile, un naseau de cheval, l'œil fardé d'un étahir. Et au milieu de tout cela, qui ambitionnait de représenter des sensations, des volontés, des souvenirs, des passions, des regrets, un accès de colère, un transport d'allégresse, une crise de neurasthénie, etc. s'accrochaient de belles œuvres chaudes et vivantes que M. de Crochant affectait de mépriser. Et comme ce fauve restait incroyablement rapin, tout cela était gardé par deux factionnaires funambulesques. Guillaume le squelette, que les mouvements de la porte faisaient gambader, et Oscar le mannequin articulé, grandeur nature, qui donnait des poses à M. de Crochant dont il avait retouché diaboliquement le faciès. Oscar se tenait debout derrière la porte, costumé en fakir. On ne le voyait qu'une fois entré. Et c'est lui que Rosine regardait avec une sorte de terreur, suffoqué d'émotion, arrêté net en plein début de son récit. « Alors ?» faisait M. de Crochant. Mais Rosine était absorbée dans son saisissement. « Spectrophélès !» Ses yeux vert clair, ce poil rouge, ses sourcils fourchus montant sur le front, cette petite moustache conquérante et cette barbiche bifurquée. Spectrophélès ! Nouvelle apparition ? Mirage ? Point, un spectacle très félès, bien substantiel, un spectrophélès de carton. Ah ! Si elle avait été moins préoccupée cette nuit, elle se serait rappelée, bien sûr, le mannequin du chevalier. Mais quoi ? C'était ce vieil Oscar et non Spectrophélès ? C'était une tête de diable, tout simplement, un Méphisto quelconque, et une poupée dont l'immobilité jouait celle de la mort ? Allons, allons, il ne fallait tout de même pas être des enfants à ce point. D'ailleurs, ces oripeaux hindous, ces mains de bois sans améthyste. Ressemblance partielle et fortuite, inspirée par le personnage de Faust. Aucune ressemblance que celle du diable de l'opéra, auquel après tout chacun a le droit de ressembler, qu'il soit cadavre ou mannequin. Non, mais est-ce que le défunt de Montgeron allait lui apparaître dans toutes les photographies de bas chantantes ? Une dixième de seconde ne s'était pas écoulée depuis que Rosine s'était interrompue. Fâchée contre elle-même, elle se molesta intérieurement et se dit « Oh, voilà, c'est, n'est-ce pas ?» Et sans plus s'occuper de Guillaume ni d'Oscar, elle reprit le cours de son exposé. Monsieur de Crochant lui donnait toute son attention. Son crâne chauve reluisait presque autant que celui de Guillaume. « Je croyais, dit Rosine en finissant, que vous aviez lu le journal, mon pauvre chevalier. J'allais le faire, répondit-il. » Ce disant, il déployait la feuille où les mots « la catastrophe de Montgeron » s'étalaient en caractère gras, et il parcourut la liste des victimes. « Mais le nom de Stéphane n'y est pas, remarqua-t-il. » C'est que je l'ai emmené tout de suite. Curieusement, Rosine consultait aussi la liste où il ne fut que des noms très banals. Ils étaient assis côte à côte sur un profond divan recouvert d'une peau d'ours noire. Le vieux peintre avait pris les mains de Rosine. Sa bonne figure était toute bouleversée et ses moustaches tombaient au lieu d'être effilés en aiguilles impériales, ainsi que la pommade hongroise les tenait d'habitude. « Ma chère enfant, » disait-il non sans chaleur. Mais soudain on entendit au sein du petit hôtel des coups lointains, secs, mesurés. « Qu'est-ce cela ? » fit Rosine. « Oh, c'est Palmyre, » répondit M. de Crochant, du fond de son chagrin. Les coups se suivaient avec une manière de solennité. Or, on eût dit qu'au rez-de-chaussée, un bedeau précédait quelques graves cortèges en frappant le parquet de sa canne ad hoc. Rosine, bien que la pensée de Stéphane l'envoûtât, ne put s'empêcher de demander « Palmyre ?» Oh oui, c'est la table tournante, expliqua distraitement le chevalier. Elle s'appelle comme ça en ce moment-ci. C'est elle qui indique son nom. Oh, elle en change tout le temps. Sylvie, Pamela, Chloé, Palmyre, des noms de son époque. Mais comme elle tape. Oui, pas de bonne humeur. On a dérangé trop tôt, parbleu. Est-ce qu'on interroge les esprits à cette heure-ci? Le matin ne vaut rien, c'est connu. Mais votre beau-père a voulu essayer pour voir. Alors elle se fâche, elle tape du pied, elle jure. Écoutez. Il prêtait l'oreille. Rosine ouvrait ses yeux immenses, pareils à ceux que l'on voit peints au sarcophage de l'Égypte. Voilà, Ross parle de moi, murmura-t-il entre ses dents. Les coups se suivaient comme les personnages sonores d'une frise hiératique et télégraphique. Car ces coups étaient des lettres et ces lettres formaient des mots. Il coupait le silence en petites tranches égales, puis cessait, puis reprenait. C'était impressionnant. La maison s'enveloppait de hantise. Les ossements de Guillaume, le squelette, achevaient de bruire avec une oscillation berceuse. Oscar, le mannequin, raidi dans une révérence de guignol satanique, détournait ses yeux fixes, trop savamment rendus. Rosine sentit son cœur se serrer. Aujourd'hui, tout lui semblait redoutable. Le spiritisme est fait de saugrenus avec un peu de mystérieux. Elle n'en voyait plus que le mystérieux, et dans le mystérieux, l'inquiétant. Dominée par l'angoisse, suivie par un fantôme, assise entre un pantin squelette et un pantin démon, tendue auprès d'un adepte de l'occultisme, aux écoutes de l'au-delà, la pauvre enfant crispait ses mains dans celles de son vieil ami. Sa destinée palpitait sous la griffe des puissances ténébreuses. Elle appréhendait un avenir damné, noir comme une nuit de sabbat, où des chauves-souris vous frôlent de leur vol, tandis qu'un vent glacé hurle sinistrement. Elle fit un mouvement pour écarter, pour se dégager de la horde des larves qui s'avançait sur elle. Écoutez. L'index appuyé au centre de sa moustache soigneusement teinte, M. de Crochant esquissait un sourire. Et ce sourire plissait avec facilité un visage qui en avait la plus grande habitude et qui s'était ridé selon la joie, comme un habit se moule aux gestes familiers. Mentalement, il comptait les coups, épelait les mots. « Oh, Palmyre Bambette, fit-il. Elle dit, je ne parlerai qu'en présence du chevalier. Ben, filons vite, ma chère, filons. Je ne veux pas vous laisser retourner toute seule à la clinique. Et je tiens à voir Stephen. Allons-nous-en, inutile d'avertir l'autre en bas. Si j'y vais, il ne me laissera plus partir. » Il prit dans une belle armoire Louis XVI son chapeau Rembrandt et se drapa d'une pompeuse cape à godet. « Venez !» Mais il s'arrêta, l'œil en coulisse vers la porte qui communiquait avec l'intérieur de l'hôtel. « Il y a quelqu'un là derrière !» chuchota le chevalier. Aussitôt, une voix perça le ventail, aigre et regrettable. Une voix commandée sur mesure par la calomnie ou la médisance, et qui tintait comme un cancan, même au prononcé de ces mots très bénins. « Êtes-vous là, monsieur Cochon ?»« Hermance !» souffla le chevalier. « Oh, s'impatiente !» reprit la voix durement. « C'est-il que vous oubliez la séance ? Monsieur m'envoie vous chercher ?» Monsieur de Cochon dit à Rosine, « Oh, pour sûr que je n'irai pas. Il doit être comme un dogue. » Rosine était pénétrée de gratitude. Certes, monsieur de Conchamps ne craignait pas le père Orlac autant qu'il souhaitait de le faire paraître, mais il voulait à tout prix lui éviter la honte, presque le crime de préférer à son fils mortellement blessé une séance de spiritisme. Connaissant le chevalier, Rosine ne s'y trompait pas. Bon, le verrou est mis, il n'entrera point, lui dit-il. Il n'y a personne? Monsieur Conchamps, vous y êtes pas? Non, non, Armand, je n'y suis pas, déclara Monsieur de Conchamps. Je viens de sortir, voici quelques minutes, avec Madame Stéphane Orlac, dont le mari est en danger de mort. Mais vous allez vous faire enlever, glapit Hermance. Mais Guillaume entama une gigue, déterminé par l'ouverture de lui, et Monsieur de Crochant sortit avec Rosine, laissant le squelette calmer ses entrechats devant l'extase du mannequin.